Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, dans notre dernier rendez-vous de la semaine. Ce soir, comment les armes arrivent-elles entre les mains des terroristes ? Des explosifs, des armes de poing et plusieurs kalachnikovs. C'est le butin récupéré hier matin à Argenteuil, dans le Val-d'Oise, au domicile d'un Français de 34 ans, soupçonné de préparer un attentat. L'homme a été arrêté et placé en garde à vue, son arsenal neutralisé. Alors, il n'est pas rare, c'est le moins qu'on puisse dire, de découvrir des armes de guerre lors de telles opérations. Depuis la mise en place de l'état d'urgence, et selon le dernier bilan communiqué, 41 armes de ce type ont été découvertes lors de perquisitions. Elles font partie intégrante de l'attirail du terroriste. D'où viennent ces armes ? Essentiellement des pays d'Europe de l'Est, les Balkans en particulier. Elles font l'objet d'un vaste trafic, mais toutes ne circulent pas dans l'illégalité. Ainsi, le fusil d'assaut utilisé par Mehdi Coulibaly à l'hypercachère de Vincennes avait été neutralisé, c'est-à-dire rendu inoffensif avant d'être remis sur le marché. L'Union européenne, après avoir longtemps fermé les yeux sur ce sujet, au nom de la libre circulation, semble aujourd'hui décidée à s'attaquer au problème via une nouvelle directive. Alors, comment les armes arrivent-elles entre les mains des terroristes ? C'est notre sujet du jour. Et pour en discuter, trois invités. Jean-Charles Antoine, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chercheur en géopolitique à l'Institut français de géopolitique, qui dépend de Paris 8. Vous avez fait une thèse qui portait sur le trafic d'armes en provenance d'Europe de l'Est. Et vous avez publié en 2012 aux éditions Vendémiaire, au cœur du trafic d'armes des Balkans aux banlieues. Pour discuter avec vous, une eurodéputée, Virginie Rosière, bonsoir. Virginie Rosière, alors j'espère que vous allez bien nous entendre parce que je crois que c'est la première fois que nous faisons nous interviewons un invité qui se trouve en pleine mer sur un bateau. Vous êtes députée au Parlement européen, donc vous faites partie des radicaux de gauche. Vous êtes membre de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et c'est au sein de cette commission que se discute actuellement la révision de la directive européenne sur les armes à feu. Troisième invité, Fabrice Arfi, bonsoir.
Bonsoir.
Journaliste au service enquête de Mediapart. Mediapart qui est un des membres fondateurs d'un nouveau réseau d'enquête européen, l'EIC. EIC pour
European Investigation Collaboration.
Voilà, qui vient de publier sa toute première enquête. Alors, il y a tout un tas de médias européens qui font partie de ce réseau d'enquête. Et vous venez de publier donc une première enquête intitulée « Armes de la terreur, la faillite de l'Europe ». Il y a plusieurs articles qui racontent notamment le trajet des armes que l'on a retrouvé à l'œuvre lors des attentats de l'année dernière à Paris. Alors avant peut-être de s'interroger sur la facilité de la circulation de ces armes aujourd'hui en Europe, je voudrais peut-être d'abord qu'on fasse un point à la fois sur la nature de ces armes et sur leur provenance. Jean-Charles Antoine, je disais des armes de guerre aux mains des terroristes, ce sont essentiellement ça, des armes de guerre aujourd'hui ?
À l'heure actuelle, oui, ils ont besoin d'armes de guerre pour accomplir leur mission, celle qu'ils se sont donnée. Par arme de guerre, il faut comprendre des armes qui vont servir à tirer, souvent de manière automatique, c'est-à-dire en rafale. Et nécessairement, ils vont chercher à acquérir ces armes, soit à l'étranger proche, soit à l'étranger lointain, pour faire ce qu'ils ont fait notamment l'année dernière.
Ce sont des armes qui sont utilisées donc pour tuer un maximum de gens. Ça ne peut pas être des armes, par exemple, qu'on trouve dans des armureries.
Si, il est possible d'en obtenir dans les armureries, mais en tir semi-automatique, c'est-à-dire au coup par coup.
Alors ça, c'est pour la nature des armes. S'agissant de la provenance, dans un des articles donc, de votre enquête, Fabrice Arfi, enfin de cette enquête à laquelle vous avez participé, il est notamment écrit ceci. Dans l'arsenal guerrier des frères Kouachi ou des terroristes du 13 novembre, les enquêteurs ont retrouvé des armes en pagaille qui venaient de Serbie, Bulgarie, Bosnie, Tchéquie, Russie ou Albanie.
Oui, 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 c'est vraiment la cartographie qu'on a pu faire grâce aux constatations policières hein, sur les armes qui ont été saisies, qui au Bataclan, qui là où les frères Kouachi sont morts, Coulibaly à l'hypercachère ou dans un appartement conspiratif, comme on dit dans le champ sémantique judiciaire utilisé par Coulibaly. Donc c'est à 99% d'origine des pays de l'Est que proviennent l'arsenal qui a permis aux djihadistes de mettre à dessein leur mission, en tout cas celle qu'ils se sont confiées, comme dit l'invité, pour commettre les attentats.
Virginie Rosière, est-ce que les eurodéputés, le travail que vous faites avec vos collègues au Parlement européen, vous a fait découvrir la réalité, peut-être de l'ampleur du nombre d'armes de guerre qui se trouvent sur le territoire européen et leur provenance donc d'Europe de l'Est. Est-ce que vous imaginez en tout cas l'ampleur de ce phénomène avant de travailler là-dessus?
Alors, on est pas les spécialistes du sujet, effectivement. C'est assez saisissant de voir comment les armes circulent et aussi de voir aussi les lacunes dans le contrôle de la circulation des armes, parce que c'est vrai que les pays de l'Est ont été une source très importante d'armes, mais aujourd'hui, rien n'oublie, la tracé une grande partie de ces armes-là. Et pour moi, c'était ça la surprise de voir que, en fait, par exemple, après 20 ans, 20 ans de durée de vie, une arme disparaissait complètement de l'écran radar et qu'on n'avait plus l'obligation de vérifier qui la possédait et comment elle se déplaçait sur le territoire européen.
Ce sont des armes, Jean-Charles Antoine, qui sont des armes produites par qui? Enfin, ce sont des armes qui, à la base, étaient des armes officielles pour l'armée de ces différents pays?
Alors, le trafic d'armes a cette particularité que la naissance d'une filière commence toujours dans le milieu légal. Et que ce soit dans l'usine de fabrication ou par la suite, toute filière commence dans le milieu légal. Ça veut dire qu'il faut une déviation par un acteur criminel volontaire ou qui le devient. Et à l'origine, cette production est venue justement des Balkans, d'Europe de l'Est et du monde soviétique parce qu'il y avait une production totalement irrationnelle qui était par centaines de milliers, voire des millions. Seulement en 1997, par exemple, en 3-4 jours, 400 000 armes ont été volées, dérobées des arsenaux à Tirana et qui ont été injectées directement dans la population en quelques heures. Ce qui signifie qu'à un moment donné, elles perdent. Il est impossible de garder une traçabilité de ces armes quand ça part dans la population aussi vite.
Vous évoquez, Fabrice Arfi, les statistiques de la Commission européenne sur les surplus d'armement des anciens pays du bloc de l'Est. Il y en a par exemple 1,25 million en Roumanie, c'est absolument énorme.
C'est les déclarations des États, en fait. Hein. Tout à fait, oui, c'est absolument considérable. C'est des surplus militaires, et comme le dit Jean-Charles Antoine, c'est-à-dire que l'histoire de ce trafic d'armes et de ces arsenaux des terroristes, c'est un détournement du cycle légal de la vie d'une arme. Et donc, il faut voir comment, d'un point de vue réglementaire, pays par pays, mais surtout d'un point de vue d'harmonisation de réglementation européenne, on peut tenter de mettre des pare-feux pour que de sa vie légale, une arme ne redevienne pas d'abord mortelle après avoir été neutralisée, et puis évidemment illégale, c'est-à-dire qu'elle passe sous les radars de ceux qui sont censés en contrôler le trafic.
Alors on va aborder la question de la neutralisation. Il faut peut-être d'ailleurs expliquer, Jean-Charles Antoine, en quoi ça consiste la neutralisation d'une arme, et pour savoir ensuite si effectivement les armes qui se retrouvent aujourd'hui aux mains des terroristes sont des armes qui ont d'abord été neutralisées. Mais qu'est-ce que c'est ?
Une arme neutralisée, c'est une arme qu'on essaye de rendre totalement inefficace au tir. Donc il y a différentes méthodes et chaque pays a historiquement sa méthode. La France a une méthode qui est certainement la plus drastique, qui consiste à fondre, détruire l'intérieur de l'arme pour éviter de rentrer dans des détails purement techniques.
C'est-à-dire qu'elle ne peut plus tuer cette arme ?
Elle ne peut plus tirer. Elle ne peut plus tirer.
Donc a fortiori, elle ne peut plus tuer.
Donc a fortiori, elle ne peut plus tuer. Mais selon les pays, les normes étaient plus ou moins drastiques et plus ou moins souples. Historiquement, certains pays faisaient uniquement un trou dans le canon. Il suffisait de changer le canon, on remettait un canon neuf, ça pouvait tirer. Mais également, il fallait prendre, et il faut encore prendre en considération, la qualité de l'arme. C'est-à-dire qu'on imagine souvent, en généralisant, que toutes les armes ont la même qualité. On dit la Kalachnikov. Alors que nous, on parle de fusil de type Kalachnikov, parce qu'il y a de multiples manières de créer, fabriquer une Kalachnikov, et dans un même pays, il y en a différentes. Donc, quand on neutralise cette arme, selon le niveau de qualité, on aura un niveau de neutralisation différent.
Et ça veut dire que derrière, Virginie Rosière, ce sont des armes dont certaines peuvent être facilement remilitarisées pour peu qu'on soit un petit peu bricoleur, en tout cas qu'on s'y connaisse un petit peu dans le maniement des armes.
Oui, c'était le cas par exemple d'armes qui ont été utilisées au moment des attentats de janvier 2015 à Paris, où des armes ont été rendues à nouveau utilisables par un simple retrait de goupilles dans le canon. Donc on a un travail d'harmonisation de ce qu'est une arme neutralisée. Mais ce que propose la directive sur la circulation des armes, justement, c'est de faire en sorte que ces armes-là ne soient plus considérées comme des objets, mais bien comme des armes potentielles, et qu'on continue à tracer leur existence et leur parcours, qu'elles aient été neutralisées ou pas. Parce qu'effectivement, c'est aujourd'hui, on a un très grand flou sur cette question des armes neutralisées, aussi sur la question des armes à blanc, qui de la même façon est très largement interprétée d'un état à l'autre de manière très différente.
Parce que vous avez découvert dans votre enquête, Fabrice Arfi, est-ce que le premier problème, c'est celui de la traçabilité, justement, de ces armes, qui sont remises dans le circuit et qui sont censées être inoffensives, mais que l'on a peut-être du mal à tracer?
En fait, nous, ce qu'on a fait, donc, c'était 11 journaux européens qui ont essayé de créer un peu d'intelligence collective au sujet d'un sujet international, le trafic d'armes et le terrorisme. C'était d'incarner un peu cette problématique, et c'est pourquoi nous débutons tous notre enquête autour de la première victime de l'hypercacher et de Koulibaly, Johan Cohen, 20 ans, le plus jeune, la première des quatre victimes de l'hypercacher, dont grâce à la balistique, on a pu voir de quel fusil d'assaut de type Kalachnikov était provenue la balle qui l'avait tué, les balles qui l'avaient tué.
C'est un VZ-58 voilà. De la marque tchèque Česká Zbrojovka.
Zbrojovka, exactement. Voilà, c'est un fusil d'assaut tchèque, très, très connu hein, dans le milieu. Cette arme, l'histoire de cette arme, en soi, est l'histoire de ce que nous avons appelé la faillite de l'Europe dans le contrôle et la réglementation. Pourquoi ? Cette arme, c'est une très vieille arme qui date des années 60, 63 ou 64 de mémoire, qui a connu donc une existence légale et qui a été même neutralisée par une entreprise slovaque qui s'appelle Coal Arms en 2014. La plupart des armes des terroristes de janvier et de novembre ont été neutralisées par cette société. Cette arme a été achetée par Internet, par un trafiquant d'armes, en tout cas suspecté comme tel, de la région de Lille, Claude Hermand, ancien militaire d'extrême droite, réputé, hein, qui a eu affaire plusieurs fois à la justice, et qui est aujourd'hui soupçonné de faire un trafic d'armes neutralisées qui sont ensuite remilitarisées. Nous avons pu tracer l'existence de cette arme, puisqu'elle a été livrée très simplement par une société slovaque, AFG, qui vend pour quelques centaines d'euros hein, ce type d'arme. Ça ne coûte rien, et que vous vous faites livrer par voie postale. Et ensuite, il les a revendus à un personnage lié au grand banditisme, dont on ne sait pas encore si c'est le chaînon manquant avec Koulibaly. Mais il se trouve que c'est cette arme-là, précisément, dont nous avons pu refaire l'historique grâce à son numéro de série, qui sera retrouvée à côté du cadavre de Koulibaly dans l'hypercacher. Cette arme, entre-temps, a été, comme cela a été expliqué, remilitarisée. Cette arme qui était inoffensive est devenue mortelle et est passée entre le maillage, entre les mailles trop, trop lâches de la réglementation européenne qui ne prend même pas en compte dans aucune de ces directives le problème des armes neutralisées, remilitarisées. Le mot ne figure même pas dans les directives européennes.
Jean-Charles Antoine, pour remettre en service, enfin pour remilitariser une arme qui a été neutralisée en Slovaquie, donc avec des critères qui sont différents de ceux de la France, par exemple, la France qui est manifestement un des pays les plus rigoureux, disons, sur le sujet. Pour la remilitariser, est-ce que ça demande des compétences importantes en matière de maniement des armes ?
Tout dépend du niveau de neutralisation. Si le niveau est assez bas, il suffit d'avoir quelques notions. Si le niveau est extrêmement haut, comme en France, là, il faut être un orfèvre, effectivement. Maintenant, à partir du moment où on importe, c'est un peu tout le décalage, en fin de compte, entre la circulation des armes, d'un point de vue illégal, je parle, qui est rapide, puisque ça passe de main à la main à partir du moment où la filière est en place, et les législations qui, nécessairement, sont beaucoup plus lentes. Et c'est dans ce décalage que s'insèrent les trafiquants. Alors, quand ils ont la possibilité de faire entrer sur les territoires français, par exemple, une arme neutralisée, et qu'ils connaissent la bonne personne, parce qu'en termes de filière, il est important de savoir qu'il faut le contact criminel. Sans contact criminel, rien n'est possible. Et s'ils ont ce contact criminel, à un moment donné, ils demandent un travail, soit un contrat, ils payent, et l'arme est remilitarisée. Et si en plus elle vient d'un pays de l'Est où ce sont des normes beaucoup plus souples, le travail est d'autant plus facilité.
Vous citez d'ailleurs un djihadiste, Fabrice Arfi, enfin djihadiste en tout cas, voilà, terroriste, qui explique que ils choisissent leurs armes neutralisées avec attention. Quand ça vient de Saint-Etienne, puisque c'est à Saint-Etienne que ça passe pour la France, ils préfèrent éviter. Par contre, il y a des pays, alors il y a la Slovaquie dont vous parliez, mais aussi l'Espagne par exemple.
Oui, l'Espagne, l'Autriche, l'Allemagne, c'est les pays qui citent, et on appelle ça les Saint-Etienne, ces armes neutralisées, qui ont en effet, c'est à la gloire de la France, la particularité d'être particulièrement bien neutralisé, donc dur à remilitariser. Et il nous dit en revanche qu'il est assez simple de se fournir dans les pays que nous avons cités, mais bien d'autres, dans les surplus des armements militaires des pays de l'Est et des Balkans, de cet énorme bazar des Balkans du point de vue de l'armement. C'est typiquement l'histoire des attentats de janvier et de novembre. Et C'est fou à quel point les terroristes considèrent que c'est facile. Nous citons la déposition devant la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, la DGSI, le contre-terrorisme français, d'un djihadiste revenu de Syrie qui avait pour mission de faire un attentat dans un concert de rock. Il ne le fera finalement pas. Son audition date d'août 2015. Il raconte qu'en Syrie, un certain Abou Omar lui avait dit « Ne t'inquiète pas, pour les armes, nous avons les filières, nous savons faire, tu n'as qu'à demander ce dont tu as besoin, nous te donnerons tout en Europe. » Abou Omar, c'est Abdelhamid Abaoud, celui qu'on a appelé l'un des coordinateurs du 13 novembre.
Alors Virginie Rosière, je rappelle, vous êtes eurodéputée. Je vous avais provisoirement un petit peu oublié parce qu'on vous a rappelé, je rappelle que vous êtes sur un bateau en pleine mer et j'espère que la liaison va être un petit peu meilleure. Comment se fait-il que l'Union européenne ne se soit pas intéressée davantage à ces questions d'armes neutralisées qui reviennent donc légalement sur le marché européen pour être ensuite réarmées, disons, alors qu'il y a quand même eu un certain nombre d'alertes qui ont été faites ces dernières années?
Oui, un certain nombre d'alertes. Il y a eu un travail sur justement l'harmonisation de la démilitarisation, de la neutralisation des armes. Et puis maintenant, on a une proposition de révision de la directive qui est arrivée assez rapidement après la décision des ministres de l'Intérieur et puis du Conseil européen début 2015. Donc maintenant, on a une proposition sur la table. Et moi, je dois dire que je suis assez étonnée de voir une bonne partie de mes collègues qui remettent en question l'opportunité de combler ces manques, de faire rentrer dans le champ des armes suivies, tracées, contrôlées, les armes neutralisées, les armes à blanc, les armes qui ont plus de 20 ans d'existence. On voit bien que ce sont des moyens d'alimenter et de faire sortir les armes du champ légal pour alimenter le champ illégal, que ce sont aujourd'hui des difficultés supplémentaires pour les services de renseignement et il y a urgence à combler ces lacunes. Je dois dire que je suis assez étonnée de voir qu'un certain nombre de mes collègues ne sont pas convaincus de cette nécessité.
Alors parmi vos collègues, je voudrais vous faire entendre la courte réaction d'une eurodéputée Front National qui s'appelle Mylène Trosinski, qui s'exprimait le 24 février dernier devant la commission de protection des consommateurs au Parlement, dont vous faites donc également partie, Virginie Rosière. Elle expliquait pourquoi elle et son groupe étaient hostiles à ce qu'il y ait une réglementation trop stricte sur la question des armes à feu.
Nous déplorons que cette proposition soit présentée sans analyse d'impact quant à ses conséquences négatives sur le commerce des armes à feu notamment, les emplois, la perte des valeurs des collections et de tous les métiers qui s'y rapportent. Nous sommes totalement opposés aux restrictions concernant la détention légale d'armes qui imposeraient des limites injustifiées et contraignantes aux chasseurs et aux tireurs sportifs notamment. La Commission n'a produit aucune preuve pour justifier que ces restrictions soient appropriées au regard de l'objectif visé, à savoir lutter contre le trafic illicite et empêcher de futures attaques terroristes.
Voilà, extrait d'une vidéo mise en ligne, je le précise, par cette eurodéputée Front National. Est-ce qu'elle a en partie raison, Virginie Rosière, cette eurodéputée, quand elle dit d'abord qu'il n'y a pas eu d'étude d'impact et qu'avant de prendre une nouvelle directive, il faudrait peut-être voir si c'est véritablement utile?
Oh ben je pense que tout ce qui a été dit depuis le début de l'émission démontre l'utilité de la révision de la directive. On pourrait encore, si on voulait, accumuler les constats sur la base des événements récents. Effectivement, il n'y a pas eu d'étude d'impact. C'était une demande à la fois des États membres et puis qui a été soutenue par la Commission, vu l'urgence à intervenir et vu l'actualité. Par ailleurs, il y a un certain nombre d'évaluations qui ont été faites de cette directive et qui concluent effectivement à l'existence de lacunes. Donc pour moi, l'opportunité, elle est tout à fait établie. Je m'étonne qu'on puisse la remettre en question. Après, il y a certaines inquiétudes de certaines populations, effectivement chasseurs, tireurs sportifs, collectionneurs. Les collectionneurs rentreraient dans le champ d'application de la directive, donc c'est vrai que ce serait une commodité, un peu moins commode pour eux, mais je pense que la sécurité des citoyens européens peut justifier que les collectionneurs doivent maintenant faire enregistrer leurs armes, ce qui n'était pas le cas avant. Je pense qu'il faut éviter d'instrumentaliser des populations comme ça qui sont attachées à leur pratique de loisir. On parle pas de la même chose. D'ailleurs, s'agissant des armes neutralisées, des armes à blanc ou de l'amélioration de la traçabilité des armes, ça n'est absolument pas contradictoire avec la pratique d'un loisir, que ce soit la chasse ou le tir sportif. Donc là-dessus, on est vraiment dans l'instrumentalisation politicienne. Je le regrette parce que la nécessité et les enjeux sont autrement plus graves.
sur la question d'ailleurs de la neutralisation et de l'enregistrement en tout cas des armes de collection. Je veux dire que j'ai fait un petit essai moi ce matin. Je suis allé sur un site d'enchères pour essayer d'acheter de manière tout à fait légale hein, une arme à feu, un fusil d'assaut précisément qui coûtait un peu plus de 300 euros. J'ai juste simplement eu à m'inscrire sur le site comme on le fait sur n'importe quel site de vente en ligne et j'ai eu tout de suite le contact du vendeur qui me proposait effectivement de m'envoyer cette arme. Fabrice Arfi, est-ce qu'on peut parler d'un lobby des armes aujourd'hui au niveau de l'Union européenne qui freine des cas de fer pour l'adoption de cette directive?
Mais il y a totalement un lobby dont l'eurodéputé d'extrême droite dont vous avez diffusé l'entretien montre à quel point elle en est la victime consciente. Cette députée a le souci de la valeur marchande de certaines collections. C'est un choix de civilisation. On peut avoir le souci de la valeur humaine. Elle veut une étude d'impact. Elle existe. Ça s'appelle l'hypercachère, Charlie Hebdo, le 13 novembre. C'est une très bonne étude d'impact sur le problème des trafics d'armes et comment les terroristes arrivent à se fournir. C'est un vieux débat qui est à la fois un lobby financier, mais qui est aussi un lobby idéologique. Nous citons dans notre enquête, par exemple, un rapport de juillet 2010 de la Commission européenne qui faisait mention de premières alertes hein, sur le risque que les armes neutralisées, parce qu'elles puis elles peuvent être facilement remilitarisées, tombent dans le champ criminel et terroriste. La réponse de la Commission, je la cite, je l'ai sous les yeux, tout ça est public et disponible dans les archives hein, de la Commission. Il existe dès lors peu d'éléments de nature à démontrer qu'une harmonisation européenne des législations nationales améliore le fonctionnement du marché intérieur par l'élimination d'entraves à la libre circulation des marchandises ou encore la suppression de distorsions de concurrence. C'est-à-dire que on n'a pas voulu se soucier de ce risque énorme qui n'a cessé de s'intensifier ensuite 2011, 2012, 2013 en disant là, il faut essayer de trouver une harmonisation européenne, de réglementer d'un point de vue européen. Il y a eu des freins qui étaient à la fois financiers et idéologiques pour dire non, libre circulation des marchandises d'abord.
C'est d'autant plus incroyable, Jean-Charles Antoine, que cette question-là, elle ne concerne pas uniquement les armes utilisées par les terroristes. Vous avez aussi beaucoup travaillé sur le grand banditisme, notamment sur Marseille, hein, même si vous avez fait une étude pour montrer que Marseille n'a pas, et loin de là, le monopole du trafic d'armes. Mais je veux dire, ces armes-là, elles sont aussi utilisées depuis des années par le grand banditisme.
Alors, les armes sont utilisées depuis la nuit des temps. Je pense qu'il faut le rappeler déjà. Ça veut dire qu'il y a un besoin depuis la nuit des temps. Elles sont utilisées par le grand banditisme, effectivement. Et il y a un petit détail à ne pas oublier, c'est que, c'est important de le rappeler, 99,99% des détenteurs d'armes ne sont pas des trafiquants. Ça signifie quoi? Ça signifie que ce sont des amoureux de leurs armes. Et à ce titre, ils voient les libertés publiques que eux veulent voir respectées, en France ou à l'étranger d'ailleurs, de conserver leurs armes à partir du moment où c'est fait légalement. Et ils militent pour ça. Et les détenteurs légaux sont les plus grands ennemis du trafic d'armes la plupart du temps, parce qu'ils voient tout l'enjeu qu'ils ont de voir leur liberté publique, qui sont en règle générale les fondements d'une démocratie, voir leur liberté publique rognée.
Mais de quelle manière leur liberté pourrait être réduite s'il y avait une nouvelle directive qui resserre le contrôle et en termes de traçabilité et en termes d'harmonisation de la neutralisation de ces armes?
Alors moi je suis dans l'observation et l'analyse, hein, bien sûr. C'est difficile avant coup de dire les menaces, on détecte les enjeux. En revanche, c'est après coup qu'on peut voir les conséquences. En ce qui concerne le terrorisme et le grand banditisme, là le lien est direct. Peut-être l'homme de la rue découvre qu'il existe des liens entre les membres du grand banditisme, entre certains membres, du grand banditisme et le terrorisme. Cela fait à vrai dire 20 ans, 1996, le gang de Roubaix, ça s'était terminé déjà avec une catastrophe dans un appartement. Mais ce sont les mêmes, ceux à l'heure actuelle qui sont djihadistes terroristes, viennent du grand banditisme. Ça veut dire que le lien est assez facile à faire, ce sont les mêmes personnes. Ça veut dire que les filières sont les mêmes, ils utilisent les mêmes contacts criminels puisque leur contact criminel, c'est eux. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Et là, pour comprendre l'équilibre à trouver, on a des détenteurs légaux partout en Europe qui disent « nous, on n'a rien à se reprocher » et 1% ou 0,5% qui utilisent les failles. Et c'est, j'imagine, pour la Commission, pour Bruxelles, la grande difficulté, c'est de trouver le point d'équilibre entre ces deux enjeux.
Il se trouve, pour vous, Virginie Rosière, le bon point d'équilibre?
Moi, je trouve que la proposition qui a été faite par la Commission, c'est une bonne base de départ, parce qu'elle n'empêche pas la détention légale d'armes. Elle ne fait que simplement mettre en place les moyens de tracer ces armes et justement d'éviter la porosité entre le marché légal et le marché illégal. Comme ça a été rappelé, une arme, elle commence son existence en étant légale. Oui. Et à un moment donné, toutes les armes illégales ont été légales à un moment donné. Oui. Donc l'idée est d'empêcher justement le passage dans le domaine illégal des armes. Mais pour tous ceux qui sont détenteurs d'armes de manière tout à fait légale et de manière tout à fait assumée, mais dans une pratique qui s'inscrit, que ce soit dans un loisir ou autre, il n'y a pas vraiment de difficulté. Effectivement, la nécessité de traçabilité, de déclarer qu'on a le droit de détenir ces armes-là, mais je pense qu'on est beaucoup dans un réflexe, comme ça a été dit, qui est un refus de s'identifier à ce contre quoi on veut lutter. Mais en se disant, moi je suis un détenteur d'armes légales, j'ai pas d'intention malveillante, je vois pas pourquoi je devrais faire l'objet de nouveaux contrôles. Mais c'est vraiment pas ça qu'il s'agit. C'est vraiment les armes neutralisées, les armes à blanc, les faire rentrer dans le champ de la directive, améliorer aussi, faire rentrer les collectionneurs dans le champ de la directive. C'est vrai que c'est une difficulté supplémentaire. Et puis augmenter la durée et l'échange d'informations aussi entre les différentes autorités nationales, parce qu'aujourd'hui on a une vraie difficulté dès que des armes traversent les frontières pour assurer le transfert d'informations à l'interopérabilité entre les fichiers nationaux. Donc ça aussi c'est une avancée très importante de la directive. Donc moi je trouve qu'on a une position équilibrée. Moi je m'attache à rassurer les différents interlocuteurs que j'ai, qu'il s'agisse de tireurs sportifs, de chasseurs, en faisant la pédagogie, en expliquant que ce n'est pas à eux que sont prises. C'est vrai que c'est un sujet un peu passionnel, mais je pense que, comme ça a été dit aussi, c'est un choix de civilisation. Il faut savoir que c'est pas illégitime de considérer que les armes sont dangereuses et donc ne doivent pas être traitées comme n'importe quel objet.
Mais est-ce qu'un choix de civilisation, ça ne devrait pas être, justement, vous allez peut-être trouver ma question un petit peu naïve, mais de se dire, on a des armes de guerre, plutôt que de les neutraliser, détruisons-les. Pourquoi est-ce que ça n'apparaît pas, par exemple, dans les projets de directive européenne, Virginie Rosière?
On parle d'armes neutralisées, mais aujourd'hui, ce qui est dans les textes européens, c'est justement une harmonisation des standards techniques de neutralisation pour éviter ce qui a été décrit, hein, à savoir des neutralisations totalement réversibles.
Oui, mais vous êtes d'accord que la meilleure des neutralisations, c'est la destruction de ces armes. Non?
Après, ça dépend. Qu'on va faire, effectivement, vous avez... Mais de toute façon, une partie des armes neutralisées ne sont pas nécessairement des armes de guerre. Et donc, nous, l'idée de la proposition, elle est de traiter les armes neutralisées comme dans la même catégorie, de la même façon que les armes initiales. Donc, si on est sur des armes de guerre, il s'agit effectivement d'interdire leur détention. On a les armes automatiques, et puis après, sur les armes semi-automatiques, d'assurer la traçabilité et le contrôle, qu'elles soient neutralisées ou pas. Et donc de les traiter exactement comme des armes.
Fabrice Arfi?
Oui, non, mais je ne peux que souscrire à cette réflexion qui, en effet, ça me paraît assez simple à saisir, que la meilleure des neutralisations, comme vous l'avez dit, c'est la destruction des armes. Et d'ailleurs, on a vu, hein, je parle sous le contrôle de Monsieur Antoine, mais on a déjà vu dans l'histoire des stocks qui devaient être détruits, qui ne l'ont pas été en provenance des pays des Balkans et qui se sont retrouvés injectés dans des filières criminelles. Il y a eu plusieurs histoires de sociétés qui avaient pour mission de détruire des stocks et qui ne l'ont pas fait et en fait l'ont vendu et ont comme ça se sont retrouvés dans le marché noir, que le grand banditisme récupère avec une porosité, comme cela a été expliqué, absolue avec le terrorisme. Le meilleur exemple que nous ayons, je l'ai déjà cité, c'est Hamedi Coulibaly, avant d'être un terroriste, il était un braqueur. Il a été pris dans une histoire dans laquelle il n'avait pas été condamné, mais pris dans une histoire de 2010 liée à des projet d'attaque terroriste, il était celui qui fournissait les munitions, parce qu'il avait le savoir-faire criminel et de fourniture d'arsenal guerrier dans son passé criminel de braqueur. Donc oui, c'est vrai que à un moment donné, quand on joue avec le feu, sans mauvais jeu de mots, parce que le propre d'une arme, souvent, c'est de tuer en attaquant ou en se défendant, parfois, oui, on se brûle les doigts. Ouais.
Pourquoi est-ce qu'on ne les détruit pas, ces armes de guerre, Jean-Charles Antoine? Est-ce que c'est parce que ça coûte cher à détruire et que ça rapporte énormément à les remettre sur le marché?
Non, je pense que l'enjeu est totalement différent. c'est qu'un collectionneur, s'il recherche une arme neutralisée, c'est justement pour qu'elle ne soit pas en état de fonctionnement. Donc il a la passion de l'arme, l'amour des armes, mais pour autant il ne veut pas prendre le risque peut-être chez lui d'avoir une arme en état de fonctionnement. Et ça, je répète, c'est 99% des gens. Donc, enfin des gens, des collectionneurs, pardon. Donc si l'arme est détruite, il n'y aura plus de collectionneurs.
Bah, c'est fatalement. Pas si grave que ça, si.
Ah mais j'ai pas donné mon opinion sur ça. Moi je ne fais que constater. Je ne fais que constater.
Virginie Rosière, dans ce que vous préconisez, j'ai vu que vous aviez publié un communiqué de presse il y a quelque temps de cela. Vous évoquiez aussi la question de l'embargo, d'un embargo européen sur les exportations d'armes vers les pays ayant un lien direct ou indirect avec le terrorisme. Alors là, on sort de la question stricte des armes qui ont été neutralisées. Est-ce que ça risque de faire partie de la directive européenne?
Non, on n'est pas du tout dans le cadre de la directive. Là, on est vraiment sur la circulation des armes dans l'espace européen, et donc vraiment d'armes qui sont sur le territoire européen. Il s'agit bien de circulation légale, encadrée, tracée des armes en Europe et leur vente aux particuliers. Donc on est vraiment, même si après on voit bien que la question des ventes sur Internet pose justement les choses de manière assez assez direct, parce que aujourd'hui, d'ailleurs, quelle que soit la provenance des armes, le commerce sur Internet, comme ça a été dit d'ailleurs, et vous avez pu le constater, permet d'accéder très facilement à des armes. Donc là aussi, c'est partie des propositions de la directive de renforcer les obligations pour pouvoir se livrer au commerce d'armes sur Internet.
Mais pour que je sois sûr d'avoir bien compris, vous dites que, en gros, la question de l'embargo européen sur les exportations d'armes, ça, c'est un tout autre sujet.
Oui, c'était traité par ailleurs dans un certain nombre de résolutions qui ont été votées la semaine dernière, mais c'est pas le sujet de cette directive.
Comment est-ce que vous avez compris, Fabrice Arfi, qu'il ait fallu autant de temps pour que la Commission européenne, enfin l'Union européenne, prenne conscience de ce danger malgré les nombreuses alertes, puisque il a fallu attendre quand même le lendemain des attentats du mois de novembre à Paris, pour que ça bouge un petit peu. Même si alors la France avait d'ailleurs publié le même jour, c'était Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, un plan en une vingtaine de points qui traitait justement total hasard du calendrier, mais le jour des attentats, qui traitait de cette question justement du trafic d'armes.
Comment l'expliquer? Je pense qu'il y a la des attentats. Que concrètement, ce qui était une menace théorique pour certains à Bruxelles est devenu une réalité concrète de gens qui meurent à cause d'armes qui sont neutralisées, puis remilitarisées, et qui passent entre les mailles des filets d'une réglementation qui ne s'est pas souciée dans les textes noir sur blanc, en dépit des alertes nombreuses de services de police, de services de renseignement, d'ONG, de spécialistes sur la question. Et voilà, il y a un avant, un après, parce qu'il y a des attentats. Et c'est terrible qu'il faille attendre des attentats, que ce soit janvier ou les 130 morts de novembre, pour se dire que peut-être en effet, c'est dangereux. On a, en quelque sorte, je vais outrer un peu mon propos, mais attendu d'avoir la démonstration que les alertes étaient réelles pour se dire qu'on allait changer la loi, éventuellement, si la directive sera votée.
Est-ce qu'on a une idée ou une estimation, Jean-Charles Antoine, du nombre d'armes de guerre qui, aujourd'hui, se retrouveraient en Union européenne? Alors, à la fois des armes qui sont neutralisées, puis celles dont on considère qu'elles sont dans la nature, mais qu'on n'est pas capable de localiser. Est-ce que ça, on le sait?
Alors, très franchement, d'une part, c'est extrêmement difficile,
j'imagine,
de savoir. D'autre part, je pense que c'est même pas nécessaire de tenter de calculer, puisque on ne saura pas. En revanche, il est possible d'avoir des tranches. Je prends l'exemple de la Transnistrie, qui est la partie orientale de la Moldavie, où en 1992, la 14e armée soviétique est partie en laissant tout sur place. Quasiment 10 millions d'armes. Alors, vous avez des ordres de grandeur. Les stocks de l'armée soviétique étaient monumentaux. Alors effectivement, certaines ont été diffusées au sein des populations, d'autres sont parties sur d'autres continents parce qu'il y avait le besoin, et puis d'autres continuent à être stockées et à rouiller ou à être parfois entretenues. Donc on parle de millions, voire dizaines de millions d'armes. Là où ça devient important de voir les filières, c'est quand on étudie les endroits où il y a un besoin réel ou ressenti. Parce qu'à partir de ce moment-là, il est possible de comprendre comment et où la filière se mettra en place.
Qu'est-ce que vous appelez un besoin réel ou ressenti? C'est-à-dire en termes
d'acquisition.
D'accord. Ouais.
En termes d'acquisition.
Dans un des endroits où il y a des conflits.
Dans un conflit, on a un besoin d'armes, mais il existe des endroits où il n'y a pas nécessairement un conflit, où il y a des tensions, et ces tensions vont donner l'impression à certains acquéreurs qu'ils en ont besoin, qui donnent des courses aux armements, et puis ça monte en puissance. Et là, ça met en place des concentrations de filières. Ça, ce sont des focus sur lesquels il est intéressant de travailler, et il est intéressant alors de, bien sûr, de travailler d'un point de vue judiciaire, c'est essentiel, mais de travailler sur un focus supérieur encore, que ce soit administratif, universitaire ou encore d'autres niveaux, pour comprendre le mécanisme de ce trafic d'armes.
Et de travailler sans doute aussi en coopération avec un certain nombre de pays européens. Virginie Rosière, où est-ce qu'on en est de cette directive armes à feu, donc, qui devrait être adoptée dans quoi, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois?
Elle devrait être adoptée en commission d'ici l'été, fin juin, si le calendrier est respecté. Là, on est au début du processus, on a eu les premiers échanges, et je dois dire que ce sont des échanges assez compliqués, assez tendus, parce que j'ai entendu des collègues d'une sensibilité politique bien différente de la mienne, y compris après les attentats de Bruxelles, question l'opportunité d'une révision de cette directive, encore après les attentats de Bruxelles, alors que, comme ça a été dit, l'étude d'impact la plus flagrante qu'on puisse avoir, ce sont malheureusement la porosité entre le marché légal et le marché illégal, tel qu'on peut la constater sur les attentats.
Donc juste un mot, Virginie Rosière, ça veut dire qu'on n'est même pas sûr qu'elle soit adoptée d'ici la fin de l'année, par exemple.
Elle devrait être adoptée. Donc le Parlement doit avoir une position d'ici l'été. Et je pense qu'il aura une position. Ça me semblerait inconcevable qu'on n'arrive pas à faire bouger les choses dans le contexte actuel. Donc en juin. Et ensuite, c'est les discussions entre le Conseil de l'Union européenne, donc les représentants des États membres et le Parlement. Mais je pense qu'il y aura une volonté des deux parties et de l'ensemble de faire aboutir cette directive très rapidement. Et moi, je souhaiterais avant la fin de l'année, c'est bien le moins.
Et comme chaque vendredi dans De Grain à Moudre, nous retrouvons les pages débat de l'Obs avec vous, Éric Eschiman. Bonsoir.
Bonsoir Hervé.
Et vous êtes intéressé cette semaine à ce qu'on pourrait qualifier presque d'un revenant, c'est Emmanuel Todd, qui depuis un an s'était fait extrêmement discret dans les médias.
Oui, Lancelin est allé interviewer Emmanuel Todd un an après la sortie de son livre sur ou contre Charlie, ou contre Je suis Charlie. L'occasion de lui faire commenter parce qu'il s'est passé des choses depuis, la crise grecque et surtout la crise des migrants, et puis un peu bien sûr l'état de la France et les attentats. Sur la crise des migrants et sur l'attitude de l'Allemagne, on sait que Emmanuel Todd est un analyste très pointu et parfois contesté ou discuté en tout cas de la politique allemande. Son jugement est assez un peu sévère, il ne nie pas ce qu'a fait Angela Merkel, mais il pense que ça va être très difficile. D'abord, il pense que l'Allemagne l'a fait surtout pour des raisons économiques, ce qui d'ailleurs avait déjà été dit. Mais surtout, il pense que ça va être très difficile pour l'Allemagne d'absorber, comme il dit brutalement, des millions d'émigrés endogames venus de Syrie, d'Irak ou d'ailleurs. Comme vous savez, il y a toujours ces analyses des structures familiales où il pense qu'il y a dans les structures familiales allemandes et les structures familiales des migrants qui arrivent des incompatibilités, en tout cas des difficultés qui vont mettre du temps à s'articuler, avec un peu une prophétie qui peut être inquiétante, où il dit que le prix à payer pour l'Allemagne pourrait être sa transformation en une société policière ou militarisée. J'espère qu'on n'en arrivera pas là.
Et puis on sait qu'Emmanuel Todd a eu quelques prophéties qui se sont réalisées. Oui, en tout cas, voilà, il a bâti sa réputation aussi là-dessus.
Et c'est tout à fait vrai, notamment sur la chute de l'URSS, notamment sur l'évolution de la démographie dans les pays arabes et leur effet sur la démocratisation. Donc il faut faire toujours très attention à ce que dit Emmanuel Todd, même quand les prophéties sont un peu sombres. Et il y a des choses très très fortes dans cette interview qui est vraiment un événement, notamment sur la France, avec un retour sur les attentats de décembre et de novembre, en disant ce portrait qui a été fait de la France à ce moment-là, qui est d'une jeunesse qui passe son temps à siroter des bières en terrasse des cafés, ne correspond pas à la réalité. Être jeune aujourd'hui, c'est pas siroter des bières en terrasse des cafés, c'est s'affronter à un marché du travail qui est extrêmement difficile, à une société qui ne s'ouvre pas à ces jeunes, et c'est un peu des vieux qui commentent et qui s'extasient de cette jeunesse. Et il y a un décalage entre la représentation qu'on fait et la façon dont notre pays reste corseté par, on connaît les positions d'Emmanuel Todd sur l'euro, donc notre pays qui continue d'être corseté par une politique économique, monétaire et budgétaire dictée par l'Europe. Et pour Emmanuel Todd, de cette contradiction-là, nous ne sommes pas sortis.
Voilà, c'est donc à retrouver dans les pages débat de l'Obs. Merci à nos trois invités, Jean-Charles Antoine, Virginie Rosière, Fabrice Arfi, d'avoir participé à cette discussion. Virginie Rosière, je rappelle, députée au Parlement européen. Fabrice Arfi, journaliste à Mediapart. Et je renvoie vraiment à cette enquête passionnante, Armes de la terreur, la faillite de l'Europe. Et puis Jean-Charles Antoine, Au cœur du trafic d'armes, ça a été publié en 2012 aux éditions Vendémiaire. Si vous souhaitez revenir, discuter à propos de cette émission, n'hésitez pas à aller sur notre site franceculture.fr à la page du Grain à Moudre. Je sais que les commentaires sont difficilement accessibles en ce moment, mais voilà, essayez quand même. C'est tout en bas de notre page. Vous pouvez également réécouter et podcaster l'émission. Un grand merci à toute l'équipe. Cyril Baer, Mélanie Chalandon, Fanny Richet, Céline Leclerc, Hugo Florent. Émission réalisée par Jean-Christophe Francis, avec à la prise de son Emmanuel Morse-Duncan. On se retrouve lundi à 18h20 pour un dialogue entre deux historiens autour de la notion de mémoire et d'histoire. Les deux historiens, ce sera Henri Rousseau et Patrick Boucheron. Tout de suite, c'est Ping Pong